La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En cette journée du 8 mars, on vous propose une Covidienne dédiée à cette journée internationale des droits des femmes. Au programme ce soir, on va commencer avec un point sur l'origine historique de cette journée avec Léo. Ensuite, une petite immersion dans la manif d'Angers qui a eu lieu aujourd'hui où on est passé en soum-soum, histoire d'avoir un peu de son. Ensuite, on continuera avec une interview d'SOS Femmes sur la notion d'emprise. C'est quelque chose qui intervient dans les violences conjugales. Et on clôturera, je vais vous proposer, une revue de presse féministe à la fin de cette émission. On est donc en studio avec Léo. Comment tu vas ?
Ça va très bien. Et toi, Clémence ?
Ça va. Tu vas nous proposer une petite chronique sur l'historique de la journée du 8 mars. Je te laisse.
Effectivement, aujourd'hui, cela n'aura échappé à personne. À moins que vous ne soyez un vieux aigri qui n'en a rien à secouer des femmes, nous sommes le 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Hier, déjà, des cortèges majoritairement constitués de femmes ou de militantes féministes s'étaient constitués dans les grandes villes de France. Mais c'est bien aujourd'hui que se déroule l'essentiel des manifestations qui ponctuent cette journée. Le 8 mars n'a rien de nouveau. Il est d'ailleurs plus que centenaire. En 1909, on célèbre la première journée nationale des femmes. Et c'est en 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes, que l'idée d'une journée internationale des femmes est mise sur la table. Deux initiatrices, parmi les 100 femmes issues des 17 pays réunis ce jour-là, en sont à l'origine. L'Allemande Clara Zetkin et la Russe Alexandra Kollontai. Et dès l'année suivante, le 19 mars 1911, nous sommes passés de la théorie à la pratique, avec des rassemblements cumulant 1 million de participantes partout en Europe. Leurs revendications, droit de vote, droit au travail et fin des discriminations au travail. L'événement s'inscrira également rapidement dans les luttes des ouvrières. Car deux semaines plus tard, un incendie se déclencha dans une usine textile de New York et tua 140 ouvrières. C'est finalement, a priori, Lénine ou l'un de ses camarades qui, en 1921, décréta que le 8 mars serait désormais la date fixe de déroulement de la Journée internationale des femmes. Encore un truc de gauche, ça commence à bien faire quand même. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le 8 mars se mondialise et s'inscrit définitivement dans les mœurs. Dans les années 70, dans le sillage des mouvements de libération des femmes, le 8 mars est même incontournable. Les revendications pour l'égalité des droits politiques et sociaux sont toujours là, et se sont même diversifiées. C'est le cas, par exemple, des luttes pour l'avortement en France. En 1977, l'ONU invite les États qui la composent, c'est-à-dire la très grande majorité des pays que compte le globe, à instaurer dans leur calendrier une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale. C'est le 8 mars qui a été retenu dans un grand nombre de pays. Et on parle bien de droits de la femme à cette époque. C'est en 2016 que l'ONU a corrigé pour parler de droits des femmes. Cette initiative des Nations Unies s'inscrivait pleinement dans ces autres initiatives. 1975, année internationale de la femme. 1976-1985, décennie des Nations Unies pour la femme. En France, l'officialisation du 8 mars comme date retenue de ladite journée est le fait d'Yvette Roudy, ministre des droits de la femme en 1982. Selon ses mots, cette journée, je cite, « commémore la lutte des femmes pour que cessent les inégalités et les discriminations dont elles sont victimes ». Et puisqu'on parle de journée internationale, je vous invite à aller faire un tour en Iran, où des militantes féministes luttent pour s'affranchir du port obligatoire du hijab. En Biélorussie, où les femmes, dont Svetlana Tikhanovskaya, jouent les premiers rôles dans les manifestations de protestation contre la réélection du dernier dictateur d'Europe, Alexandre Loukachenko. En Pologne, où le droit à l'avortement vient d'être restreint. Ou en Russie, où les militantes se battent pour criminaliser la violence domestique. Aujourd'hui, le chemin est encore long pour parvenir à une égalité stricte, y compris en France. Les Glorieuses rappelaient dans un court texte publié le 4 novembre dernier à 16h16 qu'à partir de cette date et de cette heure, les Françaises commençaient à travailler gratuitement. Par ailleurs, selon les chiffres officiels, le 3919 a reçu 23 000 appels entre mars et juin 2019 et près de 80 000 sur la même période de 2020 en plein confinement. Dernière chose, c'est la journée internationale des droits des femmes, mais ça concerne tout le monde. Il y a plein de ressources gratuites en ligne, des livres papier, des podcasts qui permettent d'en savoir plus sur ce sujet, allant des bases à des éléments plus poussés. C'est aussi ça, soutenir la lutte pour les droits des femmes. Merci de m'avoir écouté.
Merci Léo pour ce petit point très instructif. On va passer un petit reportage, enfin petit reportage, un reportage. On est allé sur place, ralliement, pour la manifestation du 8 mars, un appel d'une trentaine de syndicats. On vous laisse avec le son. 8 mars 2021, direction la place du ralliement à Angers. Une trentaine de collectifs et syndicats se sont donné rendez-vous pour un rassemblement en cette journée des droits des femmes. L'heure, 15h40, est symbolique. Avec encore un salaire 25% inférieur à celui des hommes, c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement à partir de cet horaire-là.
Le 8 mars en 2021, c'est encore nécessaire ?
Plus que jamais, ouais. Il manque la parité, notamment en politique, ou même dans plein d'autres milieux. Il manque l'égalité salariale, où on s'en approche, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ouais, c'est quelque chose de sociétal aussi. Tout ce qui est les problèmes de féminicide, les problèmes de viol qui sont pas reconnus, c'est compliqué. Donc je pense que c'est important d'être là encore aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des idées, des pistes pour essayer de faire bouger les choses ?
Je pense que ça passe par l'éducation.
Est-ce que vous venez aussi en tant que féministe ?
Oui.
Vous dites ouvertement féministe ?
Oui, ouvertement, mais je pense que même si vous posez la question aux garçons, vous aurez la même réponse et ça, c'est chouette.
Nous sommes donc passés faire un tour à la prise de parole publique qui a eu lieu cet après-midi. Au micro, les syndicats, mais aussi des collectifs féministes.
Nous sommes les coloreuses d'Angers. Nous faisons apparaître des slogans forts sur les murs de la ville avant que le soleil ne se lève ou lorsqu'il se couche. Nous sommes les femmes et les minorités oubliées par vos lois et votre justice. Nous sommes voilées, racisées, transgenres, non-binaires, lesbiennes, queer. Et nous sommes fiers.
En cette journée des droits des femmes et des personnes sexisées, nous souhaitons rappeler à tous où en est notre société. Chaque fois que nous collons, nous mettons notre rage, notre sentiment d'adelphité, de sororité à l'œuvre. À chaque fois, ces intentions sont mises à mal par les odieuses personnes qui se permettent d'arracher nos slogans. À toi qui décolle, as-tu quelque chose à te reprocher ? Je ne parle pas ici des employés de la mairie, mais des hommes qui, voyant le mot viol, se sentent offensés.
À toi qui crois vivre dans un pays de liberté, te rends-tu compte que tu seras oublié par la justice si tu es violé ? Te rends-tu compte que l'État paye pour son non-respect de la parité, pourtant obligé par les lois européennes ? Te rends-tu compte que mon genre m'empêche d'accéder à des lois et à une justice équitable ?
Nous rêvons tous et toutes d'un monde équitable envers les genres. Nous rêvons d'une institution paritaire. Nous rêvons d'une justice qui entendrait et qui condamnerait avec fermeté les violences faites à chacun et chacune d'entre nous. Nous rêvons que nos seins, nos tétons, nos poils, nos vulves ne soient plus des sujets de débat. Nous rêvons de pouvoir exister dans l'espace public sereinement. Nous rêvons de ne plus avoir peur.
Ce 8 mars est très marqué par les rôles qu'ont eu les premières de corvée. Hôtesses de caisse, techniciennes de surface, personnel de santé. Des voix sont là pour rappeler leur rôle essentiel dans cette crise sanitaire.
La baisse des féminicides est un cache-misère qui ne doit pas nous faire oublier que les violences conjugales ont fortement augmenté pendant les différents confinements. En parallèle, les femmes se sont retrouvées à devoir assumer une part encore plus lourde du travail domestique, souvent en plus de leur activité professionnelle. En temps de crise, ce sont encore des femmes qui constituent les rouages essentiels des services publics, des commerces et des services à la personne. Ces premières de corvée, qu'elles soient caissières, aides à domicile, AESH, aides-soignantes, infirmières ou sur d'autres fonctions méprisées, n'ont droit qu'à un salaire de misère et une reconnaissance opportuniste du pouvoir politique et économique. Les droits des femmes en France et dans le monde sont précaires et sans cesse menacés. Nous ne nous contenterons pas du statu quo actuel. Il est nécessaire pour la dignité de toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur orientation sexuelle, leur situation de santé, qu'elles soient cis ou trans, d'acquérir de nouveaux droits et d'asseoir définitivement les acquis du passé. Les droits à disposer de son corps, à l'IVG, à l'autonomie financière et politique.
Dans les rassemblements, on croise toujours des jeunes et des moins jeunes, toutes et tous animés par la volonté de continuer le combat.
Mais il y a énormément de petits problèmes en fait qui sont dans la vie du quotidien qu'on n'arrive pas encore à modifier parce que ce sont plus des problèmes pas vraiment législatifs en fait, mais beaucoup plus de pensée, d'idéologie et de comportement quoi. Donc,
Ouais, de culture, de mœurs.
C'est ça.
Est-ce que c'est aussi une question de peut-être qu'on est en train d'attaquer la partie immergée de l'iceberg, où en fait les choses qu'on voit, ça va être tout ce qui est féminicide, viol et ainsi de suite, et s'attaquer justement à tout ce qui est idées, mœurs. Est-ce que tu penses qu'on est à ce moment-là?
Je sais pas encore, parce que j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup plus justement des... c'est très bien d'ailleurs qu'on parle des féminicides, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va pas au cœur du problème parfois, parce que les gens se voilent la face et c'est très difficile aussi de toucher quand même la partie réellement immergée, la plus basse partie de l'iceberg, quoi. Donc je pense pas que dans cette manifestation-là...
Est-ce que t'as la sensation que cette année, ou même peut-être depuis l'année dernière, les luttes féministes se veulent peut-être plus inclusives, ne pas oublier qu'il y a aussi les personnes de la communauté LGBTI? Est-ce que tu trouves que les plus jeunes sont peut-être plus éduqués à toutes ces questions?
Éduqués, je sais pas, mais en tout cas plus politisés, c'est sûr. Vraiment, je remarque que dès le lycée, les gens sont bien plus politisés qu'il y a 4 ans, quoi. Enfin, voilà. Mais il y a une plus grande visibilité, en tout cas, de ces sujets-là, donc ils peuvent bien plus se renseigner et du coup suivre certains mouvements. Après, encore une fois, éducation n'est pas la même chose que juste suivre un mouvement qui est publicité, quoi.
Vous êtes venu ici à titre individuel ou parce que vous faites partie d'un collectif ou d'un syndicat?
Alors un peu les deux, à mon titre personnel aussi, mais aussi parce que je fais partie du syndicat CGT au CHU Angers, secrétaire du syndicat, et on a appelé aujourd'hui à venir se rassembler ici.
Moi c'est Marie-Lou. Oui, je suis là à titre individuel et aussi au titre de la CGT, je pourrais dire même de lutte ouvrière. Le combat des femmes, moi je le mène depuis que je suis toute jeune. Et je me suis battue pour la liberté de l'avortement et de la contraception, hein, y compris au niveau du CHU où c'était pas facile à faire appliquer.
Ici sur Angers?
Sur Angers, ouais.
D'accord.
Voilà.
Lutter pour les droits des femmes, je pense que depuis... Enfin, le militantisme, quelque part, c'est pour une femme, c'est aussi faire sa place et puis montrer que c'est un droit. Et que, ouais, donc, je peux dire depuis toute jeune aussi. Pour moi, ça va aussi avec le combat depuis que j'ai conscience de cette classe ouvrière. Donc pour moi, ça va aussi ensemble. Donc je peux dire dès l'âge de 18 ans. Je sais pas, j'ai l'impression peut-être non. Par contre, sur le combat des femmes, je connais beaucoup de jeunes femmes qui sont beaucoup plus, peut-être, ardentes sur ce combat-là, précisément, même si j'ai connu aussi des copines de mon âge qui étaient très, très féministes. Je pense que les jeunes sont sensibles à plein de sujets, et sur des combats de féminisme, sur l'écologie, peut-être, en effet, plus.
Ouais. C'est vrai que dans les années 68, c'était à la mode hein, d'être révolutionnaire, c'était à la mode d'être féministe. Il y a eu plein d'avancées de fait hein, depuis. C'est lié aussi au fait que la crise économique et la crise politique dure depuis des années et des années. Et il y a un recul des mentalités d'une façon générale. Mais bon, c'est pour ça qu'on est content de voir justement les jeunes qui se lèvent, et tout, y compris toute la libération de parole. C'est très bien. We'll be right back.
C'était DJ Extrême Acab et Calmos les meufs, nous sommes fortes, nous sommes fières, un hymne qu'on retrouve souvent à l'occasion de manifestations féministes, peut-être pas aussi énervé, aussi boum boum, mais il est présent. On va maintenant passer à la suite. On va parler de l'emprise, une mécanique au cœur des violences conjugales et un mot qui revient avec le focus fait sur les féminicides dans les médias ces derniers temps. On s'est rendu chez SOS Femmes, une association qui prend en charge et héberge les victimes de violences conjugales depuis plus de 30 ans. Juliette Le Taillanter et Marina Puto sont respectivement chefs de service et assistantes sociales. Tentative d'éclaircissement de ce thème central avec leur interview.
La notion d'emprise, c'était utilisé que par des professionnels spécialisés il y a encore quelques années. Là, tout le monde a un mot à dire sur l'emprise. Enfin, voilà, c'est un peu... Alors, tout et rien, des fois, avec des choses justes, d'autres moins. C'est comme le fait d'utiliser le terme pervers narcissique. Ça a été utilisé à toutes les sauces. Nous, aujourd'hui, on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute. Moi, je peux pas dire aujourd'hui que toutes les femmes qu'on reçoit ici sont victimes, par exemple, de pervers narcissiques. Voilà. La question autour de l'emprise, elle est quotidienne pour nous. La conclusion à laquelle on arrive aussi avec mes collègues à la voir évoluer cette emprise, c'est qu'elle a le visage de chacune des femmes qui se présentent à l'association. C'est-à-dire que d'une femme à une autre, l'emprise va prendre une forme différente. Les conséquences sont par contre les mêmes. Une incapacité à prendre des décisions, une incapacité à une analyse juste de la situation, une culpabilité qui n'a pas de limite.
L'emprise, c'est un processus avant tout, en fait. C'est pas juste un état, c'est pas quelque chose qui est stable. C'est un processus qui se crée, qui s'opère avec l'ensemble des violences. Donc ça va être un début de violence psychologique, d'humiliation, de rabaissement, de critique, d'interdiction, d'isolement parfois. Après, ça peut être des violences économiques, administratives, le retrait d'une autonomie. J'avais l'habitude de lire le courrier, de gérer toutes ces parties-là qui m'appartiennent dans ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis totalement dépossédée. Je ne peux pas. C'est lui qui fait tout. Il est plus intelligent que moi. Voilà. C'est l'ensemble des violences qui crée ce processus, qui enferme la victime dans une dépendance vis-à-vis de l'autre. C'est quelque chose de très narcissique qui est exercé par l'auteur de violence. Et c'est l'emprise, ce processus d'emprise qui fait que parfois des victimes ont besoin de ce qu'on appelle plusieurs allers-retours. Ça, c'est quelque chose qui revient. Parfois, c'est dans les représentations de chacun dans la société. Parfois, on ne comprend pas. Oui, mais elle vit des violences. Pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle retourne? C'est parce que finalement, l'emprise est telle. On est tellement dépossédé de soi, de ce qui fait qu'on existe en tant que personne, que des femmes ont besoin, que des victimes ont besoin de faire plusieurs allers-retours, c'est-à-dire de partir de domicile, de voir ce qui existe, de voir qu'il y a des endroits, par exemple, tels que nous le proposons, ou ailleurs aussi en France, qui permettent de se mettre à l'abri, de se protéger, de se reposer, qui permettent aussi petit à petit de se réapproprier certains espaces de notre vie, créer un compte en banque, son propre argent, son propre travail, pouvoir gérer les enfants seuls, etc. Et puis en même temps, on se pose toujours des questions sur « oui, mais il me manque », parce qu'il y a, il y a aussi une dépendance affective. Il faut savoir aussi que beaucoup de femmes victimes aiment toujours leur conjoint, leur compagnon, l'auteur de violence. C'est humain, c'est une relation qui est avant tout amoureuse. Donc il y a cet état de dépendance affective qui se crée, le manque, et puis comme le disait ma collègue sur effectivement la culpabilité, mais en fait aussi, à un moment donné, c'est moi qui ai fait qu'il est comme ça aussi, j'ai ma part de responsabilité. Et puis voilà, c'est l'aller-retour qui fait que plus les départs se créent, plus la personne devient forte à pouvoir se détacher, détacher de l'emprise. Mais il faut également aussi savoir que plus les départs se font, plus ils deviennent dangereux et plus un risque de passage à l'acte existe.
On fait porter un poids un peu lourd aussi aux femmes, c'est-à-dire que maintenant, donc elles sont, on parlait de double peine avec ma collègue tout à l'heure, mais on en est aussi à la triple peine, c'est-à-dire que, elles sont victimes, ça c'est le 1, elles sont parties une première fois et on va leur reprocher de ne pas d'être revenues vers l'auteur, et après il y a aussi ces conditions de prise en charge, elles payent vraiment un lourd tribut. Aujourd'hui, il faut savoir que il faut quand même avoir un courage énorme et monstrueux pour quitter le domicile conjugal, pour, on l'évoquait tout à l'heure, se reconstruire en entier, hors de la présence de l'auteur, alors que ça fait pourtant des années qu'il est le centre de votre existence, qu'il a parfois le contrôle total sur votre vie, sur votre mode de pensée, sur toutes vos actions, il a tout verrouillé. C'est-à-dire que cette emprise, elle ne se construit pas du jour au lendemain. Hein. C'est long, c'est un travail de fond, un travail de longue haleine. Tout a été... l'auteur, il a tout verrouillé au fur et à mesure. Et nous, on vit professionnels spécialisés assez mal aussi les conditions d'accueil qu'on leur propose aussi à ces femmes. Parce qu'il faudrait vraiment venir soutenir, c'est important, venir soutenir cette démarche-là. C'est-à-dire que nous, on est là, on le dit, vous avez bien fait. Et de toute façon, tout départ est important et tout départ va rapprocher de la solution définitive de réelle sécurité pour ces femmes et ces enfants, je le rappelle. Il n'y a pas que les femmes, les enfants aujourd'hui sont confrontés à la violence de leur père, ont des symptômes sévères de cette confrontation, de cette exposition à la violence paternelle. Et quand je disais qu'on soutient, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir aussi proposer aux femmes qui ont le courage de partir, d'avoir des espaces dignes de ce nom, d'avoir de l'accompagnement digne de ce nom aujourd'hui. C'est pas suffisant aujourd'hui ce qui est fait. La question de l'emprise, on en définit quelques contours, on est assez clair sur les conséquences, sur les différents leviers utilisés pour la mettre en place, là-dessus c'est assez clair, mais comme on le disait avec Marina, d'une femme à l'autre, elle va pas prendre la même forme. Il faut savoir quand même que sur la question des violences conjugales, 100% des violences aujourd'hui sont psychologiques. Toutes les formes de violences conjugales démarrent forcément par une violence psychologique.
On marque une pause musicale avant de se quitter. Je laisse vos oreilles entre les mains du groupe palestinien Sabrine et de leur chanteuse Camilla Djoubran.
علينا نعيد
C'est la fin de cette Covidienne. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur le 103 FM Radio Campus Angers. À 19h, Gwen a invité Michel Pateau à se joindre à lui dans l'Artichaut. Vous allez rencontrer cet ancien journaliste et auteur de plusieurs livres, dont le plus récent, Village, qui est sorti fin 2021. Ensuite, de 21h à 22h, c'est Mélodob sur Radio Campus Angers, une nouvelle émission. Enfin, entre 22 et minuit, Bamboo Station, l'émission 100% Roots, on retrouve la trame habituelle avec les babas du reggae, les nouveautés, les coups de cœur. Et pour finir, une sélection de Roots Oldies. Merci à tous et bonne soirée sur le 103 FM.